Bienvenue, vous êtes sur Radio Galaxie et nous recevons Bernard Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler tourisme. On va sortir bientôt de l'hiver et les touristes vont revenir un petit peu partout sur les lieux touristiques. Comment on définit le tourisme ?
Alors, le tourisme, c'est simplement celui qui vient d'ailleurs et qui vient non pas pour travailler, mais pour voir comment c'est, pour profiter de certains avantages d'un territoire, de certains, simplement la curiosité ou l'histoire, etc. C'est une notion très très large, le tourisme. Mais oui. C'est, et ça c'est intéressant, c'est celui qui vient d'ailleurs. Si je prends pour le Volvestre, un ami de Toulouse qui vient, mettons, à Cazères, ou qui vient se promener derrière sur la vallée de l'Ariège, eh bien, c'est un touriste. Mmh. Alors, bien sûr, on va distinguer dans tout ce qui est les analyses économiques et les bilans entre les tourismes nationaux ou locaux et ensuite les touristes internationaux, ceux qui viennent de l'étranger. Oui. Voilà la différence. Et le tourisme, c'est oui. quand même une conquête aussi de l'évolution du travail. C'est-à-dire, ça vient de la généralisation des congés pour les salariés, pour ceux qui travaillent. Autrefois, c'est-à-dire il y a 50 ans, 80 ans, les touristes, c'était la grande bourgeoisie, ceux qui avaient vraiment les moyens, qui allaient voir ailleurs ou qui allaient voir leurs biens. Tandis qu'avec la généralisation des congés, eh bien, les gens ils sont partis en vacances. Et les vacances, c'est du tourisme. On va au bord de la mer. Aujourd'hui, on peut, bientôt ça va être le cas au mois de février, on voit plein de gens qui s'avancent dans les stations de ski, c'est du tourisme, ou qui vont faire du thermal, c'est du tourisme, ou qui vont au village gaulois, c'est du tourisme, ou visiter telle ou telle ruine, église, etc., c'est du tourisme.
Est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus touristiques que d'autres, ou peut-on valoriser peut-être ces lieux qui sont moins touristiques en fait ?
Oui, toujours la même question, c'est... Pour le tourisme, on parle d'attractivité d'un territoire. Quels sont ses avantages ? Eh bien, prenons très simplement des exemples autour de nous. Vous prenez des hautes vallées de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées ou de la Haute-Garonne. Ces vallées se sont perdues au niveau de l'agriculture. Les paysans sont descendus, ça a fermé, il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de ferme. Mais un peu plus haut, il y a de la neige. Ah, de la neige, de la neige. Eh bien, ils ont un avantage. On a fait des stations de ski. On attire du monde qui vient pour le plaisir, pour la forme, pour le sport. Ils aiment la montagne, que sais-je. Ils traversent notre région, ils prennent l'autoroute, ils traversent le petit village et ils montent aux stations. Voilà, c'est des touristes. Ensuite, deuxième exemple, vous prenez ces locales, par exemple Rieux, vous prenez, il y a le centre historique, la très belle cathédrale, bien, il y a des gens qui sont intéressés par les vieilles pierres, par ce qui s'est passé, par notre histoire, nos racines, et bien, ils viennent faire un tour à Rieux et visiter ce village. Alors, éventuellement, ils vont manger au restaurant, ils vont faire trois courses, ils vont aller au café s'il y en a encore un d'ouvert, et voilà ce que ça apporte. C'est une autre forme de tourisme. Mmh. Je prends ces deux exemples très locaux. Mais ensuite... Vous le mettez à l'échelle du monde aujourd'hui. Eh bien, on va voir notre pays, notre culture, notre civilisation, notre climat, notre forêt, etc. Vous avez ce tourisme de découverte. Mais aussi, on peut prendre l'avion et puis partir sur une plage dans les Açores, par exemple, ou au Maroc. Il fait froid ici, mais là-bas, il fait très beau, pour aller se reposer, pour profiter de la mer ou de la montagne ou faire une randonnée. L'effondrement du prix des transports permet à une grande partie de la population d'aller à l'autre bout du monde.
Oui.
Sans oublier qu'il peut y avoir des choses beaucoup plus compliquées. On peut faire du tourisme, par exemple, pour aller chasser le canard dans le sud de l'Argentine, par exemple, ou on peut aller chasser du gibier, des petites bêtes ou des grosses bêtes dans des pays africains. Il y a des gens ici qui se sont payés 15 jours au Sénégal pour aller tuer des facochères. C'est du tourisme. Il y a un avantage, ça attire des gens, ils dépensent sur place.
Oui. Oui. Et là aussi, il y a un autre sujet qui vient se greffer là-dessus et on ne va pas y rentrer. Je voudrais savoir quelle importance économique pour un territoire et ce quel qu'il soit.
Alors, l'importance économique, c'est que ça va générer des emplois. Si des gens viennent, il faut qu'ils consomment, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils se logent, il faut qu'ils se déplacent. Et si l'endroit leur plaît particulièrement, ben même ils peuvent évidemment emporter des souvenirs en quelque sorte. Donc ça a de l'importance. La France est parmi les premières destinations mondiales pour les touristes internationaux, c'est-à-dire ceux qui viennent vraiment de l'étranger.
Oui.
Notre pays, c'est autour de 85 millions de visiteurs actuellement dans une année. C'est énorme. La France serait classée, disons, première en destination mondiale, ou du moins l'été. Alors, voilà, il y a ce qui se passe, par exemple, actuellement au niveau de la sécurité en France avec les attentats, freine cette arrivée de touristes internationaux, en particulier les touristes américains qui sont extrêmement, qui ont très très peur apparemment de n'importe quoi, mais aussi les touristes japonais.
Oui.
Donc cet apport de touristes est énorme. Vous ajoutez ensuite le tourisme interne, c'est-à-dire très simplement le Toulousain qui vient dans le Volvestre ou l'habitant du Volvestre qui s'en va visiter et voir une exposition à Pézenas dans l'Hérault. Eh bien, ça, c'est du tourisme et ça génère, pareil, des mouvements, des achats, etc. Donc, actuellement, pour la France, l'activité touristique est entre 7 à 8% du PIB. Donc, c'est surtout pas négligeable. Mm-hmm. C'est des milliers, des milliers, des milliers d'emplois.
Oui.
Le problème, il faut le savoir aussi, c'est que quand on regarde l'emploi, c'est souvent des emplois saisonniers.
Et oui.
Le tourisme de mer, c'est l'été. Le tourisme de neige, c'est l'hiver. Donc, il faut bien être conscient qu'il y a une forte activité économique, mais c'est une activité atypique, très saisonnière.
Oui. Comment on peut faire pour développer le tourisme sur un territoire et est-ce que le particulier a un rôle à jouer justement dans ce développement économique ?
Le particulier a un rôle très très important et là, d'abord le premier rôle, c'est d'en profiter.
Mmh.
Donc pour le particulier, c'est d'en profiter au sens, bien, et ça fait partie de l'attractivité du territoire. Est-ce qu'il y a dans tel endroit qui est intéressant ? Est-ce qu'il y a des gîtes ruraux ? Ce sont des particuliers. Est-ce qu'il y a des chambres d'hôtes ? Ce sont les particuliers. Et aujourd'hui, il y a toutes les formes de location qui se développent grâce à Internet. Est-ce qu'il y a des campings, par exemple, pour faire profiter l'ensemble ? Il peut y avoir un camping à la ferme. Il peut y avoir un particulier qui monte une visite d'exploitation. On le voit, par exemple, les apiculteurs sont un peu en pointe. Souvent, ils proposent des visites de leur exploitation apicole. Nous l'avons même à Rieux, par exemple, ce genre d'opération
mm-hmm.
qui était très favorable. On profite du touriste pour en tirer aussi un revenu. Mais aussi, en organisant quelque chose, on valide, on augmente l'attractivité du territoire.
Oui. Donc, l'importance, en fait, d'un territoire, c'est d'avoir quelque chose d'attractif pour attirer le touriste,
oui.
mais aussi quelque chose qui puisse le faire rester.
Eh bien, bien sûr. C'est d'ailleurs un problème dans le Volvestre. Il y a pas mal de choses qui sont attractives. On va certainement y revenir. Mais comment le faire rester ? C'est la vraie question. Est-ce qu'on arrive à le loger ? Est-ce qu'il y a des propositions suffisantes de logement ? Et voilà, selon les classes de touristes qui viennent. Il ne suffit pas d'avoir un bus de gens qui viennent, qui ont fait 300 km pour le village gaulois. Ils viennent, ils visitent le village gaulois. Et qu'est-ce qu'ils font après ? Ils reprennent le bus, ils partent.
Et oui.
Bon, l'objectif, effectivement, c'est que le village gaulois ait du monde. Soyons clairs. Et l'objectif secondaire, mais aussi important, c'est qu'il y ait du monde et que certains restent sur place. Ils font manger au restaurant, prennent un hôtel ou une chambre d'hôte, etc. C'est-à-dire génèrent sur place des revenus financiers,
oui.
des flux financiers. Et là, ça devient un peu plus compliqué puisque tous les territoires sont en compétition, bien entendu.
Tout à fait.
Alors, des territoires ont un avantage naturel. On parlait tout à l'heure de la montagne, de la neige ou de la mer, de la plage et du soleil. Et d'autres territoires n'ont pas en soi d'avantages. Comment font-ils ?
Mm-hmm.
Eh oui, comment font-ils ? Donc il y a des stratégies par rapport à la demande, par rapport au transport, etc. pour faire, par exemple, une attractivité artificielle, comme on dit.
Oui. Ce qui veut dire quand même quelque part, c'est que ceux qui, par exemple, arrivent à faire une chambre d'hôte ou à faire l'hébergement, ils ont tout intérêt à dialoguer avec d'autres territoires pour justement faire passer cette masse touristique qui va générer une économie locale et diffuse.
Oui, bien sûr. Il faut coopérer. Mais à l'intérieur du territoire, il faut coopérer aussi. Et
oui,
ça, c'est un point qui est fort, dont souvent on ne se rend pas compte dans les collectivités territoriales, c'est qu'il faudrait vraiment aider l'activité privée. Parce que derrière, c'est cette activité privée qui définit l'attractivité concrète sur le terrain. Si quelqu'un a un projet de faire un parc, je prends un exemple par hasard, un parc pour des papillons, eh ben, il faudrait trouver finalement les moyens de l'encourager, financiers, d'aide, de coopération.
Parce que ça participe. Cette aide ?
Parce qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas liés aux avantages naturels, si vous voulez, dans le lieu.
Oui.
On peut monter une piscine à bulles, et puis ça peut intéresser, sur 100 km, les gens vont venir. Voilà. Ne parlons pas Disneyland, pour prendre un exemple. Là où il a été fait, il n'y avait rien, il n'y avait que des champs. Voilà, il n'y avait rien. Mm-hmm. Et il y a des millions de gens qui viennent dans le secteur. Il
oui.
y a X hôtels qui vivent de ça.
Comment et qui va aider un particulier, mettons, à monter un projet touristique ?
Oh ben, de toute façon, il y a des organismes spécialisés là-dessus, mm-hmm. qui sont efficaces. Et puis ensuite, il y a les collectivités locales et territoriales. C'est à elles aussi de savoir ce qu'elles veulent.
D'accord. On va rester un peu chez nous quand même. Hein. On n'est pas Chauvin à Radio Galaxie, mais enfin, on va aussi parler de chez nous. Est-ce qu'il existe et quel est le tourisme du Volvestre ou du Grand Volvestre, parce que le Volvestre est quand même assez grand.
Oui,
il y en a en Ariège, il y en a en Haute-Garonne.
Ben, on peut dire que c'est un tourisme, disons, qu'on pourrait classer moyen, assez classique en soi. Il y a des avantages naturels dans le Volvestre, au sens le plus simple.
Oui.
Il y a de très jolis villages, il y a de très jolies églises en campagne, où il y a même, on le voit bien à Rieux, il y a des architectures, il y a des choses remarquables qui attirent les gens qui aiment les vieilles pierres, par exemple.
Oui.
C'est clair. Qui aiment l'histoire, c'est clair. Ceci est mis en valeur sur le Volvestre à l'heure actuelle d'une manière assez historique. Il y a une deuxième sorte de touriste qui est souvent liée, c'est les gens qui se promènent, qui veulent marcher. C'est aujourd'hui la randonnée, comme l'on dit. Ben, le Volvestre développe ses sentiers de randonnée. On peut constater que souvent, c'est les principales communes qui font des sentiers randonnées de territoire. Est-ce que tout ça est interconnecté ? Peut-être que ça va venir. Mais ça va se faire. Voilà, ça attire des gens qui viennent se promener. Est-ce qu'ils vont dépenser sur le territoire ? Pas nécessairement, mais peut-être un peu. Il y a ça aussi. Ensuite, il y a l'attractivité liée aux vacances aussi. Est-ce qu'il y a des terrains de camping, par exemple ? Il y en a peu. Il faut en termes d'équipement, il y a peu de choses. Il y en a un à Rieux. Coup de chance. Est-ce qu'il ne mériterait pas d'être développé, refait aux normes d'aujourd'hui ? On peut se poser des tas de questions de ce genre. Bien sûr. Ensuite, est-ce qu'il y a des activités susceptibles de loisirs, d'attirer des personnes ? On le sait. Pour nous, il y a le village gaulois en proximité. C'est une chose remarquable et très attractive. Mais comment garder sur place les gens qui viennent passer un après-midi au village gaulois avec les enfants.
Hein. Mm-hmm.
Voilà, c'est des questions techniques. Alors, autour de nous, il y a par exemple les marchés aussi.
Oui.
Les marchés, les foires, les expositions, la culture sont des éléments qui jouent énormément. Par exemple, est-ce qu'il y a un événement culturel majeur dans le Volvestre susceptible de faire venir du monde et de les retenir un peu ? Non, ben non, on n'est pas Marcillac. Marcillac, pendant un mois, c'est la folie pure, tout le secteur. C'est en pleine ruralité.
Mmh.
Là, il faut le voir comme ça.
Oui.
Donc, il y a des efforts à faire. Ensuite, vous avez, par exemple, des choses qui participent à la notoriété aussi des lieux. Parce qu'avoir des équipements, c'est une chose, mais aussi, il faut le faire savoir dans cette compétition qui est nationale et internationale.
Oui.
Bon, de ce point de vue, les chemins de Saint-Jacques, par exemple, lorsqu'on aura la Via Garona qui va traverser tout notre secteur, participera de cette notoriété. Bien sûr, est-ce que ça apportera d'entrée de supplément économique ? On le verra bien, mais la notoriété est importante, ou le classement des villages comme
alors
point
oui, justement,
remarquable.
Ça allait être aussi ma question. Justement, est-ce que le fait que Rieux, puisque ça c'est à Rieux, et qu'on le connaît, est-ce que le fait d'être plus beau des tours des villages de France, est-ce que ça a un poids et ça a un impact sur le tourisme ?
Ah, ça a nécessairement un impact, parce qu'une partie du tourisme, en particulier les amoureux des vieilles pierres et de l'histoire,
oui.
eh bien, ils travaillent avec des guides, ils regardent les guides, ils se fichent des destinations. Et ça a donc un impact évident.
Oui.
D'ailleurs, un impact était très sensible cet été à Rieux, et très sensible, moi je l'ai vécu personnellement, je me suis trouvé dans le vieux Rieux, à côté de la cathédrale plusieurs fois, en fin d'après-midi, le soir, alors que et avec des gens qui étaient là, qui voulaient visiter, qui étaient là, qui avaient le guide à la main, en fait.
Oui.
comme d'habitude. Donc, et je pense aussi que l'Office de tourisme de Rieux a vu sa fréquentation, il a pu le chiffrer, qui a augmenté. Ça, cet effet. Mais derrière cet effet, la question qui est fondamentale, qu'il ne faut jamais oublier, quelle est la retombée économique sur le secteur ?
Voilà, il faut garder
c'est toujours dans le passage ne rapporte pas grand-chose sur le territoire, si ce n'est des effets indirects. Si vous avez du passage, c'est que vous avez de belles maisons bien nettoyées, historiques, une belle église, une belle cathédrale ou quelque chose. Ou un événement culturel aussi.
Oui, tout à fait.
Moi, je veux dire, si vous prenez une exposition Mesquia qui a eu lieu cette année à Martre, eh bien, il faut le savoir, très simplement, oui. Il y a plein de gens qui sont venus de notre territoire au sens large, qui sont allés à Martre voir cette exposition. Moi, je connais des Toulousains qui sont allés voir cette exposition.
Oui, oui.
On était dans du culturel, quelque part, mais qui a généré une attractivité et une connaissance du territoire. Donc, tous ces éléments, mis bout à bout, participent de l'attraction touristique.
Oui.
Mais l'objectif réel, c'est ils viennent et consomment.
Oui, mais
ça,
il faut les garder.
On est dans l'économie.
Voilà, il faut les garder, il faut faire de...
Si possible.
Voilà, de quoi les recevoir. Oui, oui, je comprends bien. De quoi les loger. Oui. Je comprends bien votre raisonnement. On le sait, cette année 2017, c'est un grand chamboulement dans les institutions. Et donc, il y aura le rassemblement des communautés de communes. Et donc, bien sûr, la communauté de communes du Volvestre n'y échappe pas. Ils ont, à partir de 2017, la compétence touristique qui va incomber à cette nouvelle communauté de communes. Et ce, depuis le 1er janvier. Est-ce qu'il y aura des conséquences pour les autres territoires qui sont proches de chez nous ?
Oui, ça aura des conséquences. Il se produit un petit chamboulement au niveau territorial,
oui.
C'est-à-dire dans les centres de décision territoriaux de l'État, du département. Donc, depuis le 1er janvier 2017, à la compétence au tourisme, ce sont les communautés de communes qui l'ont. C'est
oui.
Terminé, ce n'est plus les communes. Donc, dans notre territoire, eh bien, la compétence tourisme revient à la communauté commune du Volvestre, donc à la communauté de communes sur le côté sud, etc. En tant qu'économie, en tant que centre de décision, c'est beaucoup plus cohérent que ce soit à cette dimension-là.
Mmh.
Et même, je pense que si on parle d'attractivité touristique du territoire, il faudrait même aller plus loin. C'est-à-dire que les communautés de communes qui sont le long de la Garonne, etc., devraient avoir une politique identique. Mais là, on verra bien.
Oui.
Identique, parce que ce n'est pas la communauté de communes du Volvestre qui va décider elle-même d'avoir une attractivité pour les communes qui en sont membres. Il faut avoir une vision un peu plus large,
oui.
Et un peu plus globale. Surtout si on veut faire quelque chose qui attire du tourisme international. Mmh. Celui qui a la carte bleue bien garnie. Voilà. Mais là, il faut des centres de décision plus vastes.
Mmh.
Voilà, c'est ce qui se passe. Alors, concrètement, eh bien, que va-t-on voir ? Vous l'avez constaté au mois de janvier, les offices de tourisme ont été fermés plusieurs jours. On a vu qu'il y a des déménagements, de nouvelles têtes. C'est la mise en place.
Oui.
Cette mise en place est particulière pour le personnel qui travaille dans les offices de tourisme. Il faut le savoir aussi. Hein.
Oui.
Parce qu'ils relevaient de plusieurs statuts. Dans certains cas, ça pouvait être des associations. Dans notre cas, c'était du territorial. Et tout ça, il faut que ça s'harmonise. Et ça s'harmonise d'une certaine façon, et d'une certaine cohérence, et si possible, avec une bonne efficacité finale. On le verra.
Oui.
Mais ce qui est important, c'est le centre de décision. Le centre de décision, c'est, bien entendu, la communauté de communes. C'est le conseil, ce sont les groupes de travail.
Oui.
Est-ce que ça va être cohérent à ce niveau-là ? La question est là. Est-ce que les gens qui vont être en charge du tourisme ont une vision globale et n'ont pas une vision « je défends mon village » ? Est-ce qu'ils ont une envie d'aller un peu plus loin ? C'est là que ça va se décider.
Oui.
Et de mettre aussi les aides, la stimulation, la promotion qu'il faut pour aider le particulier, pour maintenir ou favoriser telle ou telle opération.
Oui.
Voilà. Et ça dépend de nos élus, quelque part.
Oui, tout à fait. Et alors là, je pense que ça, c'est justement le petit problème, ou en tout cas le grain de sable qui risque de faire grincer le rouage, c'est que justement, la population n'a pas son droit dans la décision d'élire justement les gens compétents, peut-être.
Ah, ça, je ne sais pas. Je veux dire, c'est un problème qui est à côté et qui est un problème politique, c'est-à-dire les communautés de communes sont constituées à partir des élections municipales et quand on vote aux élections municipales, on voit bien la liste de ceux qui sont susceptibles d'aller à la communauté de communes et c'est tout. Ça, c'est un des problèmes qui va porter sur la démocratie locale. Et bon, honnêtement, je ne vais pas en parler maintenant, ce n'est pas mon objet ni ma spécialité, mais je vais dire qu'à titre personnel, et autour de moi, on le sait, je regrette beaucoup qu'on n'élise pas au scrutin direct les gens de la communauté de communes. Mmh. Moi, pour moi, c'est extrêmement dommage d'un point de vue démocratique. Ouais. Mais revenons au tourisme. En ce qui concerne le tourisme, nous avions des structures, des offices de tourisme dans tous les villages un peu importants, qui faisaient la promotion du tourisme chez eux, des vieilles pierres chez eux, des choses chez eux, tout était chez soi. Avec, visiblement, parce que ce sont des gens compétents et de bonne volonté, évidemment des propositions qui vont bien au-delà de la commune. Hein. Mais voilà, c'était toujours centré. Maintenant, c'est terminé. Et ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que passer la gestion, l'approche touristique sur une vision plus globale, sur un territoire plus vaste, je suis extrêmement favorable parce qu'on va avoir une vision moins vieille pierre et plus économique. Je le vois comme ça. Mais ça dépendra aussi des gens qui s'en occupent derrière. Ça, je le dis aussi parce que ça me paraît cohérent. Mais la réorganisation va se faire et il y aura peut-être une approche, j'en suis sûr, une approche globale. Ouais. Donc, quand on a une approche globale, on a une vision où on peut mettre les moyens sur des points forts, et là, ça a de l'effet.
Oui.
Le saupoudrage, il faudrait que ça se termine, le saupoudrage.
Tout à fait.
Et derrière, il y a quand même aussi, ça je dois le dire, parce que je connais plusieurs des personnes qui travaillent dans le tourisme, et on a la chance dans le Vaud-Estre quand même aussi, mais je pense que c'est vrai ailleurs, hein, d'avoir des personnes compétentes et investies et passionnées par leur boulot. Et ces personnes-là, dans cette transformation, dans cette nouvelle façon de fonctionner, il faut faire attention à elles, parce que c'est un changement important de structure, d'approche, oui, de travail. Donc, il faut penser aussi à leur faire confiance.
Est-ce que vous avez une idée, justement, du fonctionnement de ces offices de tourisme? Parce que le touriste, lui, se réfère à l'office de tourisme pour savoir s'il peut aller voir, s'il va avoir envie d'aller voir telle ou telle région, il va se référer à un office de tourisme. Est-ce que vous avez une idée du comment ça va se passer?
Aujourd'hui, tout le monde fonctionne d'abord avec un smartphone. Le nombre de touristes que vous voyez avec l'appareil, parce qu'en plus ça fait GPS, c'est incroyable. Le nombre de touristes que vous voyez avec le GPS, ils sont branchés sur l'office de tourisme du coin, et à mesure, ils ont tout le descriptif des vieux cailloux qu'ils voient éventuellement. C'est incroyable, je veux dire. Même on n'a plus besoin d'une personne physique dans certains cas. C'est, pour moi, vu mon âge, ça paraît même un peu inquiétant, effroyable, mais c'est la réalité technique. Donc, c'est ce qui va se passer. Alors, les offices de tourisme étaient, dès l'origine, faits pour accueillir, informer de tout ce qui se faisait et proposer, évidemment, des découvertes, etc., un accompagnement. Ben, ceci va rester, mais sous des formes peut-être un peu différentes. Parce que la technologie va influer sur tout ça. Ce que je disais, des fois on voit des groupes visiter quelque chose et il n'y a personne qui accompagne. Ils ont tout sur l'appareil téléphonique, sur le smartphone, l'iPhone, que sais-je. Donc ça change aussi ça. Ce qui va être important dans les offices de tourisme aujourd'hui et dans la globalité de la fonction de tourisme, c'est peut-être justement une coordination par rapport à ça et surtout les problèmes d'incitation et d'accompagnement. Je crois que ça va devenir très, très, très important. Donc, on aura peut-être moins besoin d'amoureux des vieux cailloux, comme on en dit, mais peut-être plus de gens susceptibles d'orienter vers des activités autres, et des activités vers du secteur privé, etc. Je crois que c'est une petite révolution qui va se faire assez vite,
oui,
mais qui est inéluctable, qu'il y ait regroupement ou pas, honnêtement.
Mmh. D'accord. Quel est l'impact que l'on peut imaginer ou qu'il peut y avoir justement dans notre Vaud-le-Vestre? Parce que c'est vrai que le Vaud-le-Vestre, historiquement, c'est riche. Voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, au détour d'une randonnée, on peut trouver un site remarquable, on peut trouver le berceau d'une histoire, le berceau d'une civilisation. Il n'y a qu'à se rendre au Mazazil, il n'y a qu'à aller voir du côté de Saint-Christot, il n'y a qu'à aller voir du côté des forêts en faisant des randos. Voilà, on a plein de choses. Foix, le Gaston Phébus n'est pas si loin que ça du Volvestre. Martre, vous le disiez, et j'en passe. Alors, quel est l'impact de ce touriste qui va venir dans le Volvestre? Qu'est-ce qu'on peut en ressortir?
On a un patrimoine qui est riche, comme quasiment toutes les régions françaises.
Oui.
On n'a rien d'extraordinairement, particulièrement touristique. Il faut être très clair, on est surtout une zone de passage. Mm-hmm. C'est déjà pas mal si on peut les arrêter.
Oui, tout à fait.
Mais on est déjà, on a plein de choses remarquables, mais partout. Vous allez dans d'autres départements à côté, vous vous approchez, on a parlé de l'Ariège, bien sûr, là, de Foix. Mais bien sûr, on a de tout. Est-ce qu'on a quelque chose susceptible d'attirer des touristes japonais ou chinois? Voilà. La progression au niveau international. En France, 85 millions, à peu près, de touristes étrangers. Ce chiffre, bon, si la situation politique, sécuritaire retrouve un peu de stabilité, ce chiffre progresse tous les ans de 3-4%. Un jour, on aura à Toulouse le passage de 5000 Chinois par mois. C'est ce que disent les spécialistes du tourisme au niveau français. Est-ce que Toulouse se prépare à accueillir le passage pour 2 ou 3 jours, hein, de touristes chinois? Est-ce que nous, on va être capable de faire venir quelques touristes chinois? C'est ça. C'est ça l'enjeu. Dans notre région, dans notre belle région, vous avez une ville qui a réussi, politiquement et avantage, à attirer l'international. C'est Albi et Toulouse-Lautrec, grâce à un peintre, et grâce à une cathédrale, et grâce à une politique de valorisation d'ensemble. Jusqu'à ces dernières années, il y avait plus de touristes qui passaient par Albi que par Toulouse. Des touristes internationaux.
Oui.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, dès le printemps, d'aller à Albi, vous serez frappé par voir des bus entiers de japonais et maintenant aussi de chinois. Des bus entiers. Ben oui. Ils viennent là, ils vont y passer la journée. On le sait. Ils n'y restent pas beaucoup. C'est la cathédrale et le musée.
Oui, mais ils mangent, voilà.
Ils les ont attirés, voilà, sur l'avantage. Est-ce que le Volvestre sera ça? Il faut être honnête. Non. Non. Dans les touristes qu'on veut attirer, bien sûr, il faut faire. On va retrouver de l'économie. Il faut faire du marketing. Quel type de personne, de touriste étranger, est susceptible de venir? On le sait. Hein. Nous, on a des vieux cailloux. On a de la randonnée. On a une belle vue des Pyrénées. Il ne s'agit pas de vouloir attirer des touristes qui viennent parce qu'ils veulent aller au bord de la mer, ils veulent se baigner, ils veulent faire de la planche à voile. Pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, il faut réfléchir. Nos avantages, ce qu'on peut proposer et nos avantages compétitifs. Et là, il faut prendre des décisions.
Oui.
Ce qui est clair dans le Volvestre, c'est que pour l'instant, il n'y a pas suffisamment d'hébergement.
Oui.
Ça aussi, il y a quelques particuliers, par exemple, à une chambre d'hôte. Et pourtant, la chambre d'hôte, c'est une activité économique qui permet à un ménage de vivre très correctement. On se plaint que dans notre monde agricole, il y a des exploitations en danger, qui dit en crise, etc. Est-ce qu'on insiste beaucoup pour leur donner un coup de main? Et pourquoi pas dans telle ou telle ferme avoir de chambres d'hôtes? Et je vous assure que ça changerait leur vision de l'économie et du devenir et de l'avenir.
C'est vrai.
Par exemple. Mais on les laisse et c'est une initiative qui est quasi individuelle. Quel dommage.
Les instances sont peut-être à même de pouvoir aider justement ces personnes-là.
On peut faire beaucoup de choses, mais il faut qu'on ait une approche un peu plus globale. Et ce point de vue, la loi NOTRe, du point de vue touristique, à mes yeux, et d'un point de vue économique, je voudrais dire, c'est une bonne chose. Une vision beaucoup plus globale. Attendez, soyons honnêtes. Ce n'est pas une émission sur la nôtre, on ne l'a pas faite, on pourrait presque la faire, mais je m'excuse, on prend la véhicule, on ne sait plus dans quelle commune on est, et puis qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi, honnêtement.
Non, mais
on
ça,
va voir un site,
là, je suis
on va
d'accord.
voir ceci, on veut se loger là. Bien sûr, la dimension communale, elle avait du sens lorsqu'on allait à pied ou qu'on avait une charrette avec des bœufs. Et à ce moment-là, on pouvait dire, il me faut 1h30 pour rejoindre le village. Aujourd'hui, je m'excuse, mais il faut 3 minutes. Si j'avais un vœu, ça serait que Radio Galaxy soit un avantage pour le tourisme dans le Volvestre et que des personnes dans le monde entier soient passionnées par cette radio et les émissions qui sont en ligne.